La première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes le 9 novembre 1922 à Moucron, c'est au château des Tourelles que naît Raymond Devos, fils d'un industriel français ayant fait faillite, reconverti en expert comptable et d'une mère au foyer. Deux ans plus tard, la famille quitte la Belgique et s'installe à Tourcoing. Très tôt, on découvre chez le petit Raymond un don pour raconter les histoires. Après une scolarité brève en raison du manque d'argent, le jeune homme qui a soif d'apprendre va le faire en autodidacte. La langue française et la musique faisant partie de ses passions. La carrière d'artiste le tente. En attendant, on le retrouve dans divers boulots, coursier, libraire, crémier au hall de Paris. Puis c'est la guerre qui tonne. Devos est requis par le service du travail obligatoire, le fameux STO en Allemagne. Et c'est au cours de cette triste expérience, dira-t-il, qu'il découvre l'intérêt du mime. En effet, ne pouvant se faire comprendre par les mots, les déportés de nationalités différentes communiquent par les gestes, les attitudes, les regards. De retour à Paris, il s'inscrit à l'école fondée par le mime Étienne Decroux, puis il prend des cours de théâtre et en 1948, avec deux camarades, André Gilles et Georges Denis, il monte ses premiers numéros burlesques, ce sont les trois cousins. Raymond Devos a alors rendez-vous avec un public qui va lui rester fidèle jusqu'au bout. Le clown jongleur et poète est mort le 15 juin 2006. On va le retrouver, c'est inoubliable, au travers des archives de la Sonuma dans une séquence réalisée par Laurence Arianoff.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
La magie, ça existe, il y a des phénomènes physiques. Quand on rentre sur scène, que l'on s'ouvre, j'allais presque dire que l'on émet, cette espèce d'appel, il y a le public, il faut renvoyer quelque chose. Sans ça, ce ne serait pas possible. Eh bien, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, il y a ce qu'on appelle une ambiance. Il y a quelque chose qui se fait. Et si ça ne se fait pas, en ce qui me concerne, sur le plan du spectacle, c'est raté. C'est un rendez-vous raté.
Raymond Devos qui explique ici sa relation donc avec le public. On le retrouve au micro de Michel Cédric en 1981.
Si on n'était pas sensible à ça, à cette présence fabuleuse du public, on ne pourrait pas faire ce métier. Parce que c'est le public qui vous guide. Surtout en matière de comique. C'est le public qui rit à ce que je dis. S'il ne rit pas, je n'existe plus. Bon, on ne va pas faire de théorie sur le rire, mais moi, tout ce que j'écris, c'est fait pour amuser. Si ça n'atteint pas son but, ça ne veut plus rien dire, ce que je dis. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de comiques. C'est parce que c'est une épreuve redoutable, surtout pour l'orgueil. Moi, si je vous dis, mesdames et messieurs, je vais vous amuser, je vais vous raconter un truc. Si je raconte ce truc et que les gens ne rient pas, je suis parfaitement ridicule. On dit, qu'est-ce que c'est que ce type ? Les gens rient quand même, mais de moi. Ils ne rient plus de l'histoire que j'ai racontée. C'est une épreuve terrible pour l'orgueil. C'est pour ça qu'un comique, souvent, il n'est pas heureux. Quand ça ne marche pas, il est sûrement pas heureux. Mais en plus, il risque de devenir méchant, d'en vouloir aux gens. C'est arrivé, hein. On a connu des comiques qui n'étaient pas gentils avec les gens, c'est-à-dire qui deviennent très irritables. Et aussitôt qu'il y a un bruit dans la salle ou que quelqu'un ouvre un paquet de bonbons, ils ont envie de prendre cette personne pour cible. Ça devient comme une haine parce qu'on les empêche de faire leur travail. Ce qui n'est pas du tout justifié, qui pourrait l'être un peu, mais je veux dire qui est disproportionné. Le public a tous les droits. C'est à vous à le subjuguer.
Mais vous avez, vous, un rôle vraiment primordial dans notre société d'aujourd'hui.
Parce je que, le crois, figurez-vous.
Mais c'est vrai, vous êtes un amuseur. Sans vous, il n'y aurait pas de récréation.
C'est très beau, ça. J'aime beaucoup ce que vous dites. Et c'est vrai. C'est-à-dire que s'il y avait suffisamment de sujets de rire dans la vie, on n'aurait pas besoin de gens comme moi. Voilà. Mais hélas, on n'en est pas là. Mais effectivement, je suis un homme de récréation. Et c'est une fonction merveilleuse. Détendre les gens, leur faire oublier momentanément, je souligne le mot, la réalité qui est souvent, malheureusement, pénible. Pas toujours, ne dramatisons pas, mais souvent, le poids de la vie, le travail quotidien, faire la cuisine, le ménage, préparer le repas, le servir, desservir, faire la vaisselle, aller se coucher pour préparer le repas du lendemain. Ça pourrait être désespérant. Ça ne doit pas l'être. Et ça ne doit pas l'être parce qu'il faut qu'on prenne ça, parce qu'il faut le faire. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et que c'est une fonction qui est belle aussi. Et il faut que les gens se rendent compte de ça, mais il ne faut pas que ça pèse. Alors nous, on est là. On cherche un peu à amuser l'esprit, à se détendre, à sortir de tout ça. C'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est suffisant. Moi, j'ai écrit un sketch là-dessus où je dis qu'un artiste ne peut pas tout faire. Par exemple, un mime. Hein, un mime ne peut pas tout faire. Par exemple, moi, un jour, je devais mimer un personnage qui n'avait rien à faire. Eh bien, j'ai rien pu faire. Parce que ne rien faire, ça peut se dire, mais ça ne peut pas se faire. Et en plus, je pouvais pas dire que je pouvais pas le faire parce que le personnage qui n'avait rien à faire n'avait rien à dire. Ouais, etc. Bon, on va dire. Ouais, bon.
Mais vous avez fait du mime à un moment de votre vie.
J'en ai fait beaucoup.
Trois ans, pendant trois ans. J'en ai
fait, oui. J'ai adoré ça. Et à l'époque, je faisais du mime, je pensais faire du mime. Après tout, quand je commence à faire quelque chose, c'est ce que disait Margaritis au moment de ses pistes aux étoiles. Il avait une admiration pour moi, mais une admiration, et pas tellement pour ce que je faisais, mais parce que je faisais... Il m'a dit, tu as 25 vies. Et il avait un peu raison, parce que quand je me mets à jouer d'un instrument, à un moment, j'étais un clarinettiste dans ma vie. Quand j'ai commencé à prendre des cours de clarinette, j'étais un clarinettiste. Les voisins auraient pu dire, tiens, le clarinettiste qui rentre. Ou tiens, le clarinettiste qui sort. Et puis après, à un moment, j'étais un mime. Alors on a dit, tiens, de Vos, le mime. Vous savez, le mime, celui qui fait du mime. Bon. Et puis j'étais le comédien. Celui qui joue du Molière. Bon. Et puis j'étais l'auteur aussi, à un certain moment. On dit, c'est celui qui écrit des textes.
Ça vous gêne, ces différences?
Bon, pas du tout. Ça m'enchante, parce que je suis un peu insaisissable. Je trouve que c'est reposant, parce que on peut aller partout. On n'a pas besoin d'avoir une adresse. Monsieur De Vos, faisant ça, habitant tel... Bon, j'habite nulle part, moi, même, finalement. À force de faire ça, on n'a plus d'adresse. C'est formidable. C'est embêtant pour la poste.
Si on ne veut pas devenir fou, jouons les fous, précédant la folie. Je crois que vous avez dit ça un jour. Alors, cette folie qui nous guette...
Oui, il faut la prévenir, c'est évident.
Mais cette folie qui nous guette, à votre avis, elle vient de quoi? Du mode de vie actuel? Tout va trop vite? Oui. Ou... aussi des questions qu'on se pose et qui restent sans réponse.
Oui, bon, bien sûr. Bon, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Si c'était qu'une question d'anecdote, de comportement et même de civilisation. C'est beaucoup plus une question d'aventure générale de l'homme. C'est toute l'absurdité vient de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire des questions qui n'ont pas de réponse, qu'on se pose tout le temps. D'où venons-nous? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait là? Où on va? On ne le saura jamais, madame. Jamais, jamais. Et je trouve ça merveilleux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est désespérant. Moi, je trouve formidable. Si on savait d'où on venait, ce serait une banalité.
Mais vous vous forcez pas quand vous dites ça?
Non, pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, s'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce que je ferais là? Et quel jeu pourrait-on tirer de tout ça? On pourrait tirer aucun jeu. L'esprit ne pourrait pas s'amuser. Il s'amuse parce qu'il est obligé. Parce qu'en plus, alors le grand phénomène de humain, c'est l'apparition quand même de la raison. On est quand même jusqu'à un certain moment, je ne sais pas, moi je ne connais pas, je ne suis pas plus fort qu'un autre. C'est aussi mystérieux pour moi que pour un autre. Mais on est quand même fait de chair, c'est-à-dire on est exactement de la même substance que les animaux. Voilà. Exactement, on vit comme un animal physiquement. Et puis on a l'esprit, on a l'intelligence, on a la lumière. Cette espèce de petite lumière d'un jour qui est apparue, qui a été cette espèce de réflexion, le phénomène de la réflexion, tout le monde connaît. Tout d'un coup, on s'est mis à réfléchir, ce qui est déjà, à mon sens, quand on réfléchit, quelque chose qui réfléchit, c'est quelque chose qui revient sur elle-même. Alors donc, c'est parce qu'on est à un certain moment, l'évolution est arrivée à tel point qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, alors donc elle a commencé à revenir sur elle-même, quoi, à se réfléchir. Quoi. Et l'homme est le résultat de ce mouvement-là, sûrement. Bon, mais c'est quelque chose, alors, ça bouleverse tout, ça renverse tout le fonctionnement. Les instincts, ce qu'on appelle l'instinct, c'est pris en charge par l'intelligence. C'est-à-dire, au lieu que ce soit instinctif, c'est-à-dire spontané, c'est pris en charge par la raison. On raisonne l'instinct. Alors ça donne lieu à toutes les complications, les complexes, tout ce que vous voulez. Ou bien, donne lieu à des moments de génie fabuleux. Et l'homme est là, et au milieu de ça, avec un regard ouvert, qui ne voit pas, quelquefois qui est tourné vers l'intérieur. C'est tout ça, c'est très... On peut tirer 1000 images de notre aventure, et c'est pour ça que c'est fantastique. C'est pour ça que si on veut ne pas s'ennuyer, mais il n'y a qu'à regarder les choses, sans se les dissimuler, sans aller inventer des mystères, il n'y a qu'à regarder nos propres mystères.
il faut que je vous dise tout d'abord, mesdames et messieurs, que je me suis fait tout seul. Et que je me suis raté. Ah ça, je me suis raté. Pas de beaucoup. Bah, j'ai d'autant plus de mérite à l'avouer que ça ne se voit pas tellement. Encore que personne ne m'ait jamais dit « vous vous êtes réussi ». Mais au début, lorsque je me faisais, je voyais bien que je me faisais mal. Mais comme à chaque fois que je me faisais mal, les gens disaient « c'est bien fait », j'ai continué de me faire mal en croyant bien faire. Alors, lorsque j'ai vu la tournure que je prenais, j'ai arrêté. Je me suis laissé dans l'état dans lequel vous me voyez. Alors on a dit, non seulement il est raté, mais en plus il n'est pas fini. Ah bien, je préfère ne pas être fini. Un homme fini est fini. Avec moi, je suis inachevé. Comme une symphonie, peut-être. Vous savez que quand on est un raté, on se sent sûr de soi. À l'école déjà, le jour de l'examen, tous mes petits camarades avaient peur de ne pas réussir. Moi, j'avais pas peur. Ils arrivaient tout tremblants. Moi, j'étais sûr de moi. J'étais sûr de rater. Et puis, ça ratait pas.
Je me suis fait tout seul. Raymond Devos, en 1989, il est face au journaliste Gérard Vallée dans l'émission de l'RTB Point de Mire. Et celui-ci lui demande, Gérard Vallée lui demande s'il aurait aimé être Molière.
Mais c'est le rêve de tous les comédiens. Il ne jouait pas seul, mais il jouait quand même. Il jouait parmi les autres. C'est ça qui est merveilleux chez Molière. Si Molière n'avait pas été un acteur, il n'aurait pas été Molière. Parce qu'en matière de comique, quand on n'a pas les réponses de la salle, qui sont des répliques, je ne vois pas très bien comment on peut construire quelque chose de comique. Et si Molière, avec tout le génie qu'il avait, n'avait pas été un comédien, je ne sais pas s'il aurait réussi ses pièces. Franchement. Moi, si je ne jouais pas mes textes, je ne pourrais pas les affiner. Je ne pourrais pas les construire. Parce que, bon, je sais à peu près comment faire, comment m'y prendre, mais c'est quand même le public qui me guide, c'est lui qui rectifie, c'est lui qui me remet dans le droit chemin quand je m'égare. Par ses rires, c'est fou, les rires sont des appréciations. Alors quand les gens rient, ils vous donnent raison, ils vous disent « vous ne vous trompez pas ».
On parle de la langue aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu pessimiste sur l'avenir du français, on parle de le simplifier. Vous vous rendez compte si vous n'aviez plus toutes ces armes à votre disposition ?
Ben, je m'y serais sans doute pris autrement, comme faisaient tous les comédiens du Pont-Neuf, à qui on interdisait de se servir des mots. Alors ils se servaient de pancartes, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Mais c'est quand même là l'invention, Dieu merci, hein, je me suis servi d'une langue superbe, et d'une langue riche, d'une langue chargée. Hein, c'est formidable, le français c'est formidable. Bon, mais je veux dire, si j'avais été privé de ça, mais je me serais débrouillé autrement. Moi, j'ai commencé à faire du mime. L'expression corporelle, c'est une expression forte.
J'ai vu qu'on avait failli vous perdre en regardant
vous
les années 50.
Vous
n'égarez
pas trop par ce qu'on dit, mesdames, messieurs. Parce que c'est...
Dans les années 50.
Je peux mimer ce que je dis pour corroborer. Non, c'est vrai que moi, j'ai fait du mime. C'est-à-dire que je savais pas que je savais que je pouvais me servir des mots. Bon.
N'oubliez pas qu'on est qu'à la radio. Hein.
Oui, alors vous voulez pas que je mime quelque chose ?
Si, je ferai le commentaire.
Non,
si
non, mais ça, je vous le dis tout de suite.
Non.
Vous auriez pu le dire avant.
Mimer.
Je suis arrivé avec mon matériel de mime. Tout mon attirail.
Mais ce qui m'effrayait, c'est qu'on a pu vous perdre dans les années 50. Vous avez tourné 4 films. 57, 58, 2 en 59.
C'est vous qui m'apprenez.
Ah, attendez, heureusement j'ai pris des notes parce que je me suis dit, il va me dire, c'est pas vrai.
Oui, ça, ce sont des égarements.
Allez,
oui.
Ce joli monde, le Sicilien, le travail c'est la liberté.
Oui.
Et vous n'avez rien à déclarer.
Oui, vous pouvez toujours le dire, personne ne les a vus. Alors. Ça, mais c'est certain, j'allais dire Dieu merci, parce que ça aurait nui à ma carrière, dites-donc. Ouh là là. Le premier, je faisais un aumônier, j'avais une critique superbe. On peut se permettre de parler de ça, parce qu'on avait...
D'abord, parce que personne n'a le sait.
Non, mais parce que le cinéma, bon, on aborde le cinéma, on n'en parlera plus. Hein. Comme je n'en fais pas, je peux en parler. Je risque pas de me faire du tort. Ah non, mais moi, je n'aime pas le cinéma. Parce que quand on exerce le métier que je fais, on voit la puissance des mots, ce que ça suggère, ce qu'avec une phrase, on peut suggérer, les images qu'on peut déclencher dans l'esprit des gens. Ben, l'image d'un film, une image, c'est plat, c'est mort. Alors pour moi, c'est pas intéressant du tout. Et puis, le film, c'est l'image de quelqu'un. Ce sont les images de quelqu'un. Tandis que moi, ce ne sont pas mes images, ce sont des images que je provoque. Je provoque des chocs dans l'esprit des gens qui font leurs propres images. Ils sont forcément d'accord avec moi. Je suis d'une lâcheté.
Mais Molière écrivait et on joue encore du Molière. Et on a l'impression qu'il est difficile le fait-on de jouer du Devos ? Est-ce que des gens reprennent vos sketchs et à Pithiviers ou à Toulon essayent de faire du Devos ?
Attendez, 300 ans. Je vous trouve un peu pressé. Vous m'enterrez assez vite, là. Écoutez.
En scène, peut-être.
Mais Molière, ça, non, ce qui est superbe chez Molière. D'ailleurs, ce qui est superbe, vous parliez de cinéma. Ce qui est superbe chez Molière, c'est qu'on ne l'ait pas mis en cinéma. Ou on aurait figé Molière à jamais.
On a essayé, hein.
Oui, mais de nos jours.
Oui.
Tandis que Molière, c'est un document, c'est un manuscrit. On le prend, on le relit, on le redistribue, des comédiens viennent, revêtent la défroque des personnages et revivent les personnages. Il est toujours vivant, Molière.
Entre Molière et Devos.
Il y a du monde. Beaucoup trop. Mais parce qu'il y a des gens bien. Hein.
Allez, qu'est-ce qui vous
fait ? Beaumarchais, Régnard, tous ces gens-là, c'était quand même de grands auteurs. On ne les trouvera plus. C'est pas de leur faute. J'allais dire, ce n'est pas de notre faute si nous n'avions pas de grands auteurs de théâtre. C'est la faute au siècle, je crois. Hein. Quoique, il y ait quand même Ionesco. Attention, on a des gens formidables. Mais des gens de notre temps, enfin, je veux dire, c'est plus les personnages. Ah, là, on arrive, Molière, des personnages, créateurs de personnages, et nous, qui sommes des personnages. Moi, je ne joue pas des personnages, je ne suis pas un comédien. Je ne joue pas l'avare, comme tous ces grands comédiens qui le jouent en ce moment. Je ne joue pas Tartuffe, et pourtant, quel rôle ! Je me suis privé de tout ça, moi, quand même.
Volontairement ?
C'est qu'il m'a dit, il ne s'est pas compromis avec mes personnages, ce type. Il n'est pas sot. Il sait jouer. Mais moi, c'est vrai, je recommence quelque chose. Exactement comme les personnages de la Commedia dell'arte, qui étaient, avant d'être des comédiens, c'était des personnages. Polichinelle, c'était un bossu qui jouait le rôle. Après, on a mis une bosse. Les autres qui ont rejoué le personnage, ont mis une bosse comme ça. Alors ils sont montés. Mais le vrai, le créateur, c'est un bossu, Polichinelle. C'est merveilleux, Polichinelle. Une bosse dans le dos, une bosse. Moi, j'ai celle-là, j'ai pas l'autre. Je le regrette.
Oui, mais enfin, vous.
Il y a un manque.
Une pièce à la Comédie Française, on vous ferait l'offre. Vous diriez non ?
Mais on me l'a proposé. Pierre Dux m'a souvent proposé. Il me le propose encore. Je l'ai rencontré au Molière récemment. Là, il m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, je peux pas. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin de moi pour mes textes. J'ai pas le temps. C'est vrai, je travaille tellement de choses. C'est tout le côté musical qui me prend un temps fou. J'ai dit, je peux pas faire. Il m'a dit, mais ce serait 4-5 mois, une parenthèse dans votre... Je sais bien que ce serait merveilleux. Je peux pas, c'est pas mon rôle, c'est pas... Avec Francis Perrin, on en parlait hier. Pour jouer du Molière, c'est une éducation. Parce que déjà... C'est le théâtre. On ne fait pas du théâtre avec un grand T comme ça. Il faut s'initier. On vous parlait de costume, il est là derrière, il est d'une présence folle ce costume. Mais il faut le porter. Et le porter, c'est une façon d'être, c'est une manière de penser. Il y a une élégance. On ne fait pas ça du jour au lendemain, même entre parenthèses, pour se faire plaisir. Ça, on le fait, on se consacre. Il vaut la peine. Hein. Les grands comédiens se consacrent à Molière. Ils jouent autre chose. Toute leur vie, les grands comédiens, toute leur vie, ils ont joué Molière. Ils ont arrêté, repris. Parce que Molière, il faut le rejouer et rejouer pour bien le connaître.
Mesdames, messieurs, si vous me permettez, j'espère qu'en rentrant chez vous tout à l'heure, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, mesdames, messieurs. Parce que moi, hier soir, en rentrant dans mes foyers plutôt que d'habitude, il y avait quelqu'un dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. Ah, j'ai des doutes. Bon, je vais vous jouer une étude de sort. Sort était espagnol de 1778. Ah, j'ai des doutes, c'est pas sa pointure, vous comprenez. Alors, il a force. Alors, après moi, quand j'entre... Sor était espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Après de très belles études, il en a écrit plusieurs, très belles aussi, dont la cinquième, que je vais vous interpréter, si vous le permettez. J'ai horreur qu'on se serve de mes affaires. Horreur, pour quelques francs, il a une paire de pantoufles, un pantoufle, il n'a pas besoin de trucs. Cinquième étude de Sor. Pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je ne retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme ne voulait pas le croire. Mais je lui dis, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Mon vieux, le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Un soir, j'arrive sur le palier, j'entends, profitons-en pendant qu'il n'est pas là, débarrasse-toi de ton bonhomme de mari, c'est un rabat-joie. J'en dis à mon copain qui était là, j'y ai. Baisse un peu la radio, on l'entend en bas. Il s'en sert. Trois jours après, j'entre, je trouve dans mon lit en train de fumer une cigarette, une des miennes. J'ai à ma femme qui était à côté, je dis, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il va brûler mes draps. Il s'en sert, il n'y a pas de...